suis scandalisé parce qu'on tape toujours sur les retraités, mais qu'on mette au travail tous les jeunes.
Nous, on paye des cotisations, on paye beaucoup de cotisations pour qu'il y ait des retraités qui épargnent et aillent financer leur retraite que ça, je sais pas quoi.
On a eu plus de difficultés financières que les jeunes ont actuellement.
Quand on regarde les taux de pauvreté, ce qui est clair, c'est qu'il est le plus bas maintenant chez les retraités et le plus élevé chez les jeunes, chez les moins de 30 ans.
J'ai 39 ans, je suis actif, je suis marié, j'ai des enfants et je suis jaloux de mes collègues qui partent à la retraite. Quand vous voyez, je suis à 2300 en brut et 1750 en net, il y a un gros souci.
Vous seriez d'accord, vous les retraités, pour faire un geste aujourd'hui pour essayer de combler notre déficit?
Alors, on a des retraites de misère.
Et combien vous gagnez, vous?
Non, je dirais pas.
Nous, on s'est fait une retraite aux petits oignons et on se la garde.
Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à ce qu'on appelle la génération dorée?
Non, absolument pas.
Un peu beaucoup, ouais, parce que nos enfants, ils n'auront pas ça.
On a inventé un mécanisme qui permet d'exempter certaines générations du moindre effort et de tout faire porter sur les nouvelles générations. Cette clause du grand-père, c'est quand même un sacré doigt d'honneur qui est fait à la jeunesse.
Bienvenue dans ce tout dernier épisode de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» qui abordera un sujet ô combien sensible, le système des retraites. Est-ce que le contrat retraite des boomers était plus favorable que celui proposé aux jeunes actifs d'aujourd'hui? Combien cotisait-on réellement? À quel âge pouvait-on partir? Combien touchait-on réellement de son salaire comparé à aujourd'hui? Retournons maintenant dans le passé, au moment où les boomers commencent à cotiser. Nous sommes au milieu des années 1970. Ce n'est pas encore la France du chômage de masse des années 1980, mais la rupture est déjà là.
Les Français ne le savent pas encore, mais c'est bientôt la fin des 30 Glorieuses.
Les 30 Glorieuses s'achèvent, les chocs pétroliers secouent l'économie, l'inflation devient forte et le chômage commence à monter. Les boomers ne sont pas entrés dans une vie adulte sans crise. Mais sur un point précis, les conditions étaient très différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. La démographie du système de retraite. Et pour comprendre pourquoi, il faut partir d'un chiffre. Le nombre de cotisants pour un retraité à cette époque. En 1970, au régime général, nous comptons environ presque 4 cotisants pour un retraité. En 1975, on compte environ 3 cotisants pour un retraité. Et en 1985, malgré une baisse déjà très nette, on reste encore à 2,2 cotisants pour un retraité. Un système de retraite par répartition repose sur une mécanique simple.
C'est un système par répartition depuis la Libération, ce qui veut dire que, en gros, ce sont les générations qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraites des générations qui travaillaient hier. C'est-à-dire que les cotisations qui sont prélevées à la fin du mois sur les actifs sont directement reversées sous forme de pension sur les comptes bancaires des retraités en début de mois.
Donc, dans les années 1970, le régime général fonctionne encore avec plusieurs cotisants derrière chaque retraité. Mais il faut aussi regarder ce que les actifs payaient réellement. En 1975, dans le régime général, sur le salaire plafonné, la cotisation vieillesse de base représente 10,25% du salaire, dont 3% côté salarié et 7,25% côté employeur. En 1985, cette cotisation atteint 13,9% du salaire plafonné, dont 5,7% côté salarié et 8,2% côté employeur. Nous avons réussi à trouver deux bulletins de salaire pour chaque période, les voici. Pour 1973, nous pouvons voir que certains salariés avaient déjà aussi une ligne de retraite complémentaire, comme ici avec 2% pour un boulanger. En 1986, voici ce que cela donnait pour le bulletin de paye d'un vendeur. Nous avons bien un taux à 5,7% pour la retraite. Mais durant ces années, le système de retraite ne se contente pas d'encaisser des cotisations. Il est aussi en train de se transformer. En 1971, la réforme Boulin change les règles de calcul de la retraite de base. Avant, pour une carrière complète, la pension de base pouvait aller jusqu'à 40% du salaire moyen retenu par le régime général. Après cette réforme, elle pouvait monter jusqu'à 50%. Or, pour obtenir cette pension complète, il faut dorénavant que le régime prenne en compte 37,5 années de carrière, contre 30 années auparavant. Ce n'est donc pas que du bénéfice. La pension maximale augmente, mais la durée nécessaire pour l'obtenir augmente aussi. Et cette logique continue au début des années 1980 avec une réforme beaucoup plus connue, la retraite à 60 ans.
La bataille pour le temps de vivre.
25 mars 1982, la loi est adoptée par ordonnance.
Qu'est-ce que vous pensez de la retraite à 60 ans ?
C'est très bien, c'est parfait ça.
Très bien.
Très bien.
Très bien.
Très bien.
Concrètement, il faut alors justifier de 150 trimestres, soit 37,5 années d'assurance, pour bénéficier du taux plein dès 60 ans. Donc, dans les années 1970 et au début des années 1980, le système ne va pas encore dans une logique de recul de l'âge de départ. Au contraire, il se construit progressivement autour d'une idée. Améliorer l'accès à la retraite et rendre la pension de base plus favorable pour les carrières complètes. Et cela se voit dans les chiffres de l'époque. Au régime général, l'âge moyen d'attribution des droits directs est d'environ 64 ans en 1970. Et en 1985, il passe à 62-63 ans, après l'entrée en vigueur de la retraite à 60 ans. La retraite moderne commençait à se construire, mais elle n'avait pas encore le coût qu'elle aura ensuite.
On ne sait pas non plus qui va payer.
Du côté des syndicats, on s'interroge.
Cela nous conduit à augmenter la cotisation de 25%.
Car pour savoir si le contrat retraite des boomers était réellement plus favorable, il ne suffit pas de regarder le système au moment où ils ont commencé à cotiser. Il faut dorénavant regarder ce qu'il se passe lorsqu'ils arrivent à la retraite, aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à une erreur fréquente. Quand nous parlons des boomers et de la retraite, nous entendons parfois le fait qu'ils sont tous partis à la retraite à 60 ans. Or, les générations du baby-boom ne sont pas un bloc parfaitement homogène. Entre les premiers boomers, nés juste après-guerre, et les derniers, nés au début des années 1960, les règles ont déjà commencé à changer. Et nous pouvons le voir très clairement dans les données. L'adresse montre par exemple que le taux de retraités à 60 ans a fortement reculé. Il passe de 64% en 2010 pour la génération 1950 à seulement 14% en 2023 pour la génération 1963. Donc non, tous les boomers ne sont pas partis à 60 ans. Mais oui, les premières générations du baby boom ont bien connu un cadre où la retraite autour de 60 ans était beaucoup plus accessible. Et ce n'est que le premier indicateur. Parce qu'une retraite, ce n'est pas seulement quand on part, c'est aussi combien nous touchons une fois que l'on est parti. Passons au deuxième indicateur, ce que la retraite remplace du salaire. Une retraite, ce n'est pas seulement une date, c'est aussi un niveau de pension. Pour mesurer cela, on utilise souvent le taux de remplacement. Quand une personne part à la retraite, quelle part de son ancien salaire sa pension remplace-t-elle ? Par exemple, dernier salaire net, 2000 euros, pension nette, 1500, taux de remplacement, 75%. Donc plus le taux de remplacement est élevé, plus la pension permet de conserver une part importante du revenu d'activité. Le COR montre que le taux de remplacement net se situe autour de 75% pour les générations nées au milieu des années 1950 et au début des années 1960. Attention, ce chiffre ne veut pas dire que tous les boomers touchent 75% de leur ancien salaire. C'est un cas type. Cependant, ce chiffre donne un repère. Pour certains profils de salariés du privé, le passage à la retraite pouvait encore remplacer une part importante du dernier salaire net. Mais pour les générations suivantes, ce taux baisse progressivement jusqu'à atteindre 67%. Donc, pour un profil comparable, les générations plus jeunes peuvent s'attendre à une retraite qui remplacera une part beaucoup plus faible de leur salaire en fin de carrière. Passons maintenant au troisième indicateur, l'effort de cotisation sur la carrière. Le dernier indicateur important, c'est l'effort contributif, ou, dans d'autres termes, combien le système demande de cotisation durant toute une carrière. Le COR propose un indicateur intéressant, le taux de cotisation moyen sur l'ensemble de la carrière, en additionnant la part salariale et la part employeur. Le COR indique que la génération 1955 a connu un taux de cotisation retraite moyen de 23,6% sur l'ensemble de sa carrière. Pour la génération 1940, le taux n'était que de 19%. Mais pour la génération 2000, nous atteignons les 28%.
En moyenne, un actif du privé non cadre sacrifie 28% de son salaire brut au financement des retraites.
Je pense d'ailleurs que les Français ne sont pas conscients de l'ampleur du montant des cotisations. En Allemagne, c'est 19%. 28%, c'est énorme. Et ça ne suffit même pas.
Cependant, ce troisième indicateur reste encore incomplet. parce qu'il nous dit combien une génération a cotisé pendant sa carrière, mais il ne nous dit pas encore combien elle récupère ensuite sous forme de pension. Pour résumer ce rapport entre ce qui est versé au système et ce qui est reçu en retour, il existe un autre indicateur, le taux de récupération. Dit simplement, le taux de récupération compare deux masses sur toute une vie. Combien une génération a versé en cotisation pendant sa carrière et combien elle reçoit ensuite en pension pendant sa retraite. Et selon une étude publiée en 2016 pour France Stratégie, les générations nées au milieu des années 1950 affichent un taux de récupération proche de 200%. En d'autres termes, comme on l'a vu précédemment, elles reçoivent sur l'ensemble de leur retraite environ deux fois ce qu'elles ont versé en cotisation. Là encore, cela ne signifie pas que chaque boomer, individuellement, reçoit exactement deux fois ce qu'il a payé. C'est une moyenne par génération, issue d'un modèle qui dépend de nombreux paramètres. Mais ce chiffre permet de comprendre le cœur du sujet. Pour les générations nées autour des années 1950, le contrat retraite a été beaucoup plus favorable que pour les générations suivantes.
C'est une génération qui a sous-cotisé par rapport à ses besoins. Puisque quand elle cotisait, il y avait très peu de retraités qui d'ailleurs partaient à la retraite beaucoup plus tard qu'aujourd'hui, hein, 65 ans en moyenne, qui faisaient pas de vieux os, et puis ils sont partis tôt à la retraite. Ils passent en moyenne aujourd'hui, c'est entre 20 et 25 années à la retraite. Plus on avance dans les générations, le taux de récupération il baisse. Aujourd'hui, pour les générations actuelles, il est probablement inférieur à 1.
Le vrai problème apparaît plus clairement. Ce n'est pas seulement le montant payé, ni seulement l'âge de départ. C'est le rendement du contrat retraite. Et de ce point de vue, les indicateurs vont dans le même sens. À profil comparable, les générations plus jeunes cotisent bien plus sur l'ensemble de leur carrière, tout en pouvant s'attendre à une pension qui remplacera une part plus faible de leur salaire de fin de carrière. Autrement dit, elles payent plus longtemps pour un retour proportionnellement bien moins favorable, avec un départ à la retraite plus tardif et un allongement de vie qui pèse sur le système.
Plus, il y a un effet massification qui fait qu'on a aujourd'hui 18 millions d'entités qui vont devenir 20 millions. La longévité plus la massification, ça coûte extrêmement cher pour les générations d'après, qui se retrouvent à devoir cotiser plus que leurs parents, à devoir travailler plus longtemps que leurs parents, pour toucher des retraites moindres.
L'INSEE montre par exemple qu'en 1970, l'espérance de vie à 60 ans des hommes en France métropolitaine était d'environ 16 ans, et 21 ans pour les femmes. Aujourd'hui, l'espérance de vie à 60 ans est nettement plus élevée, autour de 23 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes selon les séries récentes. En conséquence, les pensions doivent être versées plus longtemps, ce qui augmente la pression financière des jeunes actifs. L'équation devient logiquement difficile à la fin. Soit nous demandons encore plus aux actifs, soit nous baissons les pensions, soit nous repoussons le moment où l'on part.
Ma fille me le répète assez souvent qu'elle sera obligée de travailler jusqu'à 80 ans. Mais bon,
qu'est-ce que ça vous fait ?
Ça me fait mal, bien sûr, pour les générations qui viennent après moi. Mais sinon, pour moi, je trouve ça super. Je pense que je ne suis pas assez nantie pour payer pour les suivants.
Un point de vue qui n'est pas du tout partagé par Henri.
Toute notre génération, on en profite maintenant. Après les 68, on a eu beaucoup de... davantage, et maintenant c'est un gouffre complet.
Ça voudrait dire que vous cotiseriez davantage, vous participeriez à l'effort national ?
Oui, tout à fait, oui.
Vous seriez prêt à le faire ?
Ah oui.
La situation s'est bien durcie pour les jeunes actifs d'aujourd'hui, et risque d'empirer au fur et à mesure. Car aujourd'hui, le niveau de vie relatif des retraités est élevé.
Ces petites retraites qui existent, qui sont scandaleuses, sont... heureusement très marginal. Il y a trois fois plus de pauvres chez les moins de 30 ans que chez les plus de 60 ans.
Aujourd'hui, les Français sont persuadés que les retraités sont misérables. Il y a 4% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. La moyenne de la population, c'est 8%.
Les seniors ont un niveau de vie déjà supérieur à celui des actifs.
Mais les projections suggèrent qu'ils devraient se dégrader progressivement pour les futurs retraités. Donc, pour une partie des jeunes actifs d'aujourd'hui. En cause, les réformes successives, l'allongement de la durée de cotisation, mais aussi des contraintes démographiques et budgétaires qui pèsent de plus en plus sur le système. En 1993, il fallait 37,5 années de cotisation. Puis cette durée est passée à 40 ans, puis 42 ans. La cible actuelle atteint désormais 43 ans, soit 172 trimestres. Selon une publication du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, si l'on voulait combler le déficit uniquement par l'allongement de la durée de cotisation, il faudrait monter progressivement à 46 années de cotisation d'ici 2045, au lieu des 43 années prévues. Dans ce scénario, atteindre une carrière complète pourrait aller de 62-63 ans pour ceux qui commencent très tôt à 70-71 ans pour ceux qui rentrent tardivement dans l'emploi stable.
Que près d'un étudiant sur deux est toujours au chômage un an après avoir obtenu son diplôme. C'est pour ça qu'Inès veut continuer à se battre pour se payer une grande école qui, selon elle, la protégera du chômage.
Donc les générations actuelles et futures ne devront pas seulement partir plus tard. Elles devront aussi valider davantage d'années pour obtenir une retraite complète. C'est cette double contrainte qui nous mène à la dernière partie. Les jeunes actifs payent davantage pour faire tenir le système actuel, alors même que leur propre retraite s'annonce moins favorable que celle des générations précédentes. Au moment où cette vidéo est réalisée, en juin 2026, un jeune actif qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail sait qu'il devra probablement travailler jusqu'à au moins 64 ans, voire plus selon sa carrière et son âge d'entrée sur le marché du travail. Nous avons également dit qu'en 2026, les cotisations retraite représentaient 28% du salaire brut. Or, si l'on rapporte les prestations vieillesse sur vie à l'ensemble des salaires bruts versés dans l'économie, nous obtenons un ratio d'environ 38%.
Pour ajouter aux 28, par exemple, les cotisations famille, donc qui elles sont payées par l'employeur uniquement, des cotisations patronales, il y a une partie de cet argent-là qui va financer les droits familiaux à la retraite. Donc la branche famille, indirectement, elle est branchée sur les retraites. Quand on fait la somme de tout ça, on arrive probablement plus proche de un tiers que de un quart du salaire brut d'un actif.
Et si l'on reconstruit le même indicateur pour l'époque où les boomers entrent dans la vie active, cela donne un ratio d'environ 23%. Donc les actifs cotisent fortement. Mais il finance aussi un système dont la charge macroéconomique est beaucoup plus lourde qu'à l'époque où les générations du baby-boom commençaient leur vie active. Et le problème vient aussi du nombre de personnes à financer. En 2023, le nombre de cotisants est évalué à 30,4 millions. La même source indique que le nombre de retraités de droit direct est de 17,1 millions en 2023. Ce qui nous donne un rapport d'environ 1,8 cotisants pour un retraité en 2023. Mais ce rapport continuerait à se dégrader. Il passerait d'environ 1,77 en 2025 à 1,66 en 2035, puis 1,54 en 2045. Dans les années 1970, pour rappel, nous étions entre 3 et 4 cotisants pour un retraité. Pour rendre cette différence plus parlante, nous avons effectué plusieurs simulations sur des situations similaires, fictives, entre une personne née en 1955 et une autre née en 2000. Pour simplifier la comparaison, nous basons nos calculs sur un salaire de 2000 euros net. Rappelons un chiffre essentiel que nous avons abordé dans nos épisodes précédents. L'âge du premier emploi stable en 1975 est aux alentours de 20 ans. Il est aujourd'hui de 27 ans. Et ce simple fait change tout pour la suite. Voici pourquoi. Première comparaison, simulons un départ à l'âge légal standard. En commençant à 20 ans, le baby boomer aura travaillé 42 ans et cotisé tous ses trimestres. Il bénéficie donc d'une carrière complète, lui permettant de toucher une pension d'environ 1500 euros par mois. Pour la personne née en 2000, avec un départ dans la vie active plus tardive, il n'aura pas pu accumuler tous ses trimestres à 64 ans, et partirait donc avec une carrière incomplète et une pension d'environ 1000 euros par mois. Et pourtant, malgré une différence de 5 années de travail, il aura déjà cotisé plus que son aîné. L'âge du taux plein automatique étant à 67 ans, voyons si cela fait une différence. Pour le baby-boomer, aller jusqu'à 67 ans lui ferait largement dépasser la durée requise. Il pourrait bénéficier d'une surcote. Mais pour la personne née en 2000, il lui manquera encore 12 trimestres. Sa pension serait donc proratisée et il toucherait alors environ 1260 euros par mois, soit toujours moins que le baby-boomer à 62 ans. Si la personne née en 2000 veut bénéficier d'une carrière complète, il devra aller jusqu'à 70 ans. Commencer plus tard implique de cotiser plus tard et partir plus tard. La jeunesse actuelle sera alors confrontée à ce dilemme. Partir plus tôt, mais avec une pension très faible, ou continuer à travailler 6 ans de plus. Et pourtant, même en partant à 70 ans, et donc en ayant cotisé beaucoup plus, la pension serait d'environ 1350 euros. Donc toujours plus faible que le baby-boomer parti à 62 ans. Alors bien sûr, cette comparaison a une limite. Elle repose sur l'âge du premier emploi stable. Une personne née en 2000 a donc pu commencer à valider des trimestres avant 27 ans. Par exemple, grâce à l'alternance, ou des jobs étudiants, ou des CDD, etc. Pour éviter ce biais, faisons un second calcul. cette fois en partant du même âge d'entrée dans l'emploi stable. Alors, si l'on neutralise cet effet lié aux études et l'entrée plus tardive sur le marché du travail, l'écart entre les générations disparaît-elle vraiment ? Avec un âge légal de départ de 64 ans, la personne née en 2000 aurait cotisé 378 500 euros au cours de sa vie, soit environ 24% de plus qu'un baby boomer, avec 2 ans de travail en plus, et toucherait pourtant une pension 10% plus faible.
Donc l'effort à fournir par les actifs, il n'a jamais été aussi conséquent et il n'a jamais autant pesé sur le travail, parce que c'est aussi le coût du travail qui est alourdi. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi le travail ne paye plus. Je vous rappelle que dans les années 70, on pouvait doubler son niveau de vie par le travail en 15 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie.
Voilà pourquoi la situation des jeunes actifs est particulièrement difficile. Ils financent des pensions actuelles dans un système où le nombre de cotisants par retraité diminue.
Le problème, c'est que derrière, les boomers ont fait moins d'enfants, si bien qu'elle est en train de s'inverser.
Vous avez fait combien d'enfants ?
C'est pas moi qui ai voté pour la retraite par répartition !
Où les déficits projetés réapparaissent et où leur propre promesse de retraite est moins favorable que celle des générations précédentes. Et les conditions risquent encore de se durcir d'ici leur arrivée à la retraite.
Tout s'est détérioré pour les jeunes et c'est aujourd'hui eux qui sont la variable d'ajustement des politiques publiques. C'est eux qui subissent en fait les erreurs du passé.
Les boomers ont commencé leur vie active dans un système encore très soutenu par la démographie. Ils ont ensuite bénéficié, pour une partie d'entre eux, d'un âge de départ plus accessible, d'un meilleur taux de remplacement et d'un effort contributif moyen plus faible que celui des jeunes générations.
Vous avez des actifs qui doivent sacrifier une partie toujours plus conséquente de leur salaire brut pour financer des retraités qui, eux, ont le taux d'épargne le plus élevé de toutes les classes d'âge.
Nous, qui sommes bien installés, qui profitons de cette situation, ce sont des droits acquis. C'est la prochaine génération qui, elle, aura une moins bonne retraite.
Les jeunes, eux, arrivent dans un système qui leur dit « Vous payerez plus, vous partirez plus tard, vous toucherez moins relativement à votre salaire ». Et une fois retraité, vous aurez un niveau de vie relatif inférieur à celui de vos parents et grands-parents. Pour les boomers, la retraite a longtemps représenté la récompense d'une vie de travail. Et pour les jeunes générations, cette promesse ressemble de plus en plus à un fardeau.
Des actifs qui sont maintenant asphyxiés par des taux de cotisation records pour payer les retraites records, d'un nombre record de retraités qui passent un temps record à la retraite.
Alors, si l'on demande aux jeunes actifs de travailler plus longtemps, de cotiser davantage et d'obtenir une stabilité plus tard, combien de temps pourront-ils encore porter sur leurs épaules un système qui exige davantage d'eux, tout en leur offrant bien moins que ce qu'il a été accordé aux générations précédentes ? Merci d'avoir regardé ce tout dernier chapitre qui clôt notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» Si cette série vous a plu, pensez à aimer nos vidéos, à les partager et bien sûr nous laisser des commentaires. Votre soutien est crucial et nous aide à continuer ce type de format. Nous reviendrons probablement sur le sujet des retraites dans une prochaine vidéo pour approfondir certains points, notamment le coût réel du système, les différents régimes et les inégalités internes entre retraités. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, pensez à vous abonner à FinTales. Merci à tous, à bientôt !